Natalia Petrovna vous aime, Alexei Nikolaïtch.
Comment ?
Elle est amoureuse de vous.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je sais ce que je dis, elle est devenue jalouse de moi. Que pensez-vous de ça ?
Ce n'est pas possible.
Alors comment lui est venue brusquement l'idée de me marier avec ce monsieur Bolchintsov ? Pourquoi m'a-t-elle envoyé ce docteur ? Pourquoi s'est-elle efforcée elle-même de me convaincre ? Oh, si vous aviez pu voir comme son visage a changé, quand ingénument je lui ai dit oh, « Vous ne pouvez pas vous figurer la ruse qu'elle a déployée pour m'arracher cet aveu. » Oui, elle vous aime, c'est trop clair.
Vous vous trompez, je vous assure.
Non, je ne me trompe pas. Si elle ne vous aimait pas, pourquoi m'aurait-elle torturée ainsi ? Il n'y a que la jalousie qui... Et maintenant, pourquoi vous congédie-t-elle ? Elle imagine que vous et moi... Elle peut être tranquille. Vous pouvez rester.
Elle ne m'a pas encore congédié. Je vous ai dit que rien n'est encore décidé.
C'est vrai ?
Oui. Mais pourquoi me regardez-vous ainsi ?
Ah, je comprends. Oui, oui, elle espère encore.
Qu'est-ce que vous dites ?
Oui, tout devient clair. Elle s'est ravisée. Elle sait maintenant que je ne suis pas en danger pour elle.
Comment pouvez-vous penser ?
Et puis qui sait, après tout, elle est peut-être dans le vrai. Peut-être que vous l'aimez.
Moi ?
Oui, vous. Pourquoi rougissez-vous ?
Moi, Vera Alexandrovna.
Est-ce une question déplacée ? Vous ne me répondez pas.
Vous êtes dans un tel état, calmez-vous.
Vous me parlez comme à une enfant, vous ne daignez même pas me répondre sérieusement.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans une douce lumière d'été, deux jeunes gens, Vera et Alexei, découvrent les désordres de l'amour. Elle, jeune orpheline élevée dans une riche famille de propriétaires terriens, va tomber amoureuse de ce précepteur sans le sou, pas trop finaud, mais débordant de vie, dont la maîtresse de maison, Natalia, qui a 29 ans, va s'éprendre elle-même avec violence. Un mois à la campagne, pièce écrite par Ivan Tourguenieff en 1850, sera censurée en Russie, une femme de l'aristocratie ne pouvant entretenir la moindre relation avec un homme du peuple. Stanislavski ne pourra la mettre en scène qu'en 1909. Et entre-temps, il aura monté toutes les pièces de son ami Tchekhov. Un mois à la campagne, dans la merveilleuse traduction-adaptation de Michel Vinaver et la belle mise en scène d'Alain Françon, nous a offert sans doute le plus beau spectacle de cette saison théâtrale. Il peut encore se voir au Théâtre des Jazets à Paris jusqu'au 28 avril. Anouk Grimbert y est Natalia, tantôt touchante, tantôt odieuse, jouant comme sur un Stradivarius une partition délicate entre déchirement et comédie. Michalesco, avec son élégance distanciée, y est Rakitin, poète mélancolique, non dénué d'ironie, amoureux platonique de la femme de son meilleur ami. La passion soudaine et impossible de la maîtresse de maison va éclater comme un orage d'été, et à part son époux, confiant et préoccupé par son domaine, tous ceux qui l'entourent en verront leur vie chamboulée. Bonsoir Anouk Grimbert.
Bonsoir.
Bonsoir Michalesco.
Bonsoir.
Je suis très contente de vous voir parce que vous m'avez procuré un grand bonheur. Et parfois au théâtre, ça devient délicat. Et je voulais savoir d'ailleurs, tous les deux qui êtes habitués aux scènes parisiennes qui sont souvent un peu particulières, est-ce que vous ressentez justement ce bonheur du public ? Et est-ce que cette alchimie qu'il y a entre le public et vous, c'est aussi l'exact reflet d'une alchimie particulière qui s'est produite entre vous, à la Françon, le metteur en scène, et ses acteurs, et ce texte.
Tu veux parler, Michel ?
Oui. En fait, j'avais très très envie de travailler avec Anouk, avec Alain Françon, évidemment. On se connaissait pas très bien, mais il y avait beaucoup d'envie, en tout cas de ma part, et je crois que ça m'a énormément aidé. Et il y a, c'est vrai, quelque chose qui se superpose entre notre relation dans la vie et ce qu'on a à jouer sur scène le soir, et c'est d'une délicatesse, d'un soin qui, moi, m'apaise, me fait énormément de bien et devient tout à coup totalement évident. Et je crois que c'était cette évidence-là qu'il fallait trouver pour ce genre de relation. C'est-à-dire avec Anouk, on s'est vu un petit peu avant, on s'est dit comment on va jouer ça. C'est une énigme, cette relation est très difficile à expliquer et on ne savait pas parce qu'on ne se connaissait pas, en fait. Et il se trouve que la complicité qu'on a nouée en répétition a totalement, je trouve, servi le travail. Et aujourd'hui, bah oui, il y a quelque chose qui se superpose et j'ai cette joie-là.
Anouk Grimbert, vous avez déjà joué deux fois avec Alain Françon, donc vous connaissez le metteur en scène, cette façon qu'il a aussi d'être avec ses acteurs et presque de parler, j'allais dire, d'esprit à esprit, encore plus que de donner des indications, vous permettre d'accéder vous-même à ce rôle. C'est un rôle écrasant parce que c'est le pivot de la pièce, vous êtes là tout le temps. C'est un rôle étrange parce que vous passez d'une humeur à l'autre. C'est pas facile, c'est épuisant, mais est-ce que justement ce bonheur de travailler avec ce texte de Tourguenieff, qu'on connaît peu d'ailleurs, et Alain Françon, est-ce que ça vous a permis tout d'un coup d'accéder à presque à un niveau supérieur de jeu?
C'est à la fois un rôle écrasant et en même temps, c'est des ailes pour voler. Et puis, après, c'est vrai que c'est une femme qui est si multiple que ça demandait à l'actrice d'être quasiment 12 en une ou 30 en une. Et là-dessus, Alain Françon, il m'a vraiment aidée parce que c'est quelqu'un qui n'aborde pas un texte en se disant tel personnage est ainsi et tel autre est comme ça. Et voilà. Il pense pas en termes de personnage, il ne fait que fabriquer des instants. Et chaque instant balaye le précédent. Ce qui fait que quand on joue Natalia, moi par exemple, je peux même pas avant la représentation me dire bon, en gros, c'est ça son parcours. Le parcours est si chaotique que je peux aller que de seconde en seconde. Et peut-être, oui, vous avez raison, c'est libérateur pour l'actrice parce que. On avait passé un espèce de pacte avant de commencer les répétitions. Je lui avais demandé de m'aider à me libérer de mon propre style, que les gens du métier pensaient être une force et que moi, je savais que c'était une faiblesse. Sauf que personne m'aidait à lâcher ça comme une vieille peau. Et de temps en temps, en répétition, il venait tout près de moi et me disait « Anouk, tu m'as demandé de te dire là, par exemple. » Et je savais qu'il fallait que je lâche ça. Et qu'est-ce que c'est quand on lâche ça? On a peur parce qu'on se dit « Mais s'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. » Et en fait, c'est à partir de ce plus rien que commence à jouer peut-être une deuxième Anouk.
À moi, à la campagne, ce sont des rôles compliqués, ce sont des relations compliquées, mais c'est un texte tellement beau, harmonieux, intelligent, que Michel Vinavert a pas seulement traduit, mais qu'il a réinterprété. On ne sent pas du tout parfois ce qu'il y a chez Tourguenieff, qui est vraiment un truc d'époque, une belle langue, mais une langue dépassée. Là, ça va vite. En même temps, il y a beaucoup de silence. On va écouter, pour le plaisir, la voix de Michel Vinavert, parlant de l'importance de la parole au théâtre.
Pour moi, il y a la parole. La parole est première au théâtre. Et la parole a cette particularité, c'est d'être active. Et active, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle agit soit sur celui à qui elle s'adresse, soit à celui qui la prononce. Je pense que cette énergie qui habite la parole, c'est cela qui, pour moi, importe et qui, ensuite, se traduira dans des mouvements sur un plateau, dans des expressions, dans des éléments proprement théâtraux. Il n'y a pas l'intention de cela au départ.
Bien sûr, Michel Esquan ou Grimbert, Michel Vinavert, là, parle aussi de ce qu'il écrit lui-même, puisque c'est un dramaturge, mais un dramaturge contemporain. C'est pour ça que c'est assez étrange d'avoir senti chez lui le plaisir, finalement, d'adapter une pièce qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il fait habituellement, à nos Grimbert. Et il y a eu, avec ce texte, qui donne justement l'espace à la parole, parce qu'il n'y a pas d'action proprement dite, il n'y a pas d'intrigue, il y a le pouvoir de la parole, de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas entre les personnages. J'imagine que pour des acteurs comme vous, c'est un délice aussi d'avoir justement ce qu'il appelle ce pouvoir de la parole.
Mais je crois qu'il était au début récalcitrant, peut-être le mot est fort, mais en tout cas, Tourguenieff lui était un peu étranger comme auteur. Il se disait « Oh, c'est des histoires de sentiments et puis ça bavasse ». Et moi, je lui dis « Non, quand même, bosse sur le premier acte et vois s'il n'y a pas une matière vivante à élaguer ». Parce que le texte, c'est vrai, était bavard, il était explicatif, il était psychologique. Et c'est comme s'il avait pris son petit pinceau à la fois de peintre et de restaurateur de tableaux pour enlever tout ce qui est en trop et faire émerger les émotions du monde. Parce que Tourguenieff, il a quand même écrit une chose incroyablement délicate sur l'amour et sur les dégâts que ça fait quand la vie sauvage entre par force dans une femme et qu'on lutte contre ça et qu'on peut pas lutter contre ça. Et Vinavert, Je trouve qu'il a fait un objet très féminin, très velouté et très inconscient. Tout à l'heure, vous nous demandiez si on sentait le plaisir de la salle. On sent la salle qui ondule comme ça, et cette ondulation, c'est comme si c'était des centaines et des centaines de mémoires qui se réveillaient, des mémoires d'avoir été amoureux, d'avoir été déçu, d'avoir été trahi, d'avoir cru, d'avoir osé dire, d'avoir pas osé dire. Et là, quand on est acteur, c'est trop bon quand, en fait, nous on est sur scène, mais les gens dans la salle sont aussi acrobates. Ils sont incroyablement réveillés et l'empathie, c'est quand même une des choses les plus incroyables de cette terre.
Michel Esco, je vous vois approuver complètement. Vous aussi, vous le ressentez, ça?
Oui, je le ressens. Après, il y a une chose assez drôle, c'est que je disais à Anouk que pendant les répétitions, j'adorais ce que j'entendais. J'adorais dire ce que j'avais à dire et j'adorais écouter ce que les autres disaient aussi. Et elle me disait, oui, mais regarde... Il y a des cadeaux à l'intérieur des phrases. Il a glissé des petits cadeaux, des petits présents pour les acteurs. Et c'est vrai que on les découvre à chaque fois. C'est très riche. Donc on les découvre encore maintenant. Oui. Et il y a des sonorités comme ça, de choses qui nous font du bien. C'est étonnant. Hein.
Ou des atrocités. Parce que par exemple, il dit des choses. On ne sait même plus si c'est Tourguenieff ou Vinavert. Il y a une espèce d'ovulation entre les deux. Mais il dit des choses sur l'amour qui sont terribles, mais comme c'est vrai, c'est pas terrible, ça fait du bien.
Petit face-à-face entre Natalia et son grand ami Rakitin.
Rakitin, dites-moi, qu'est-ce que j'ai ?
Vous êtes amoureuse ?
Je suis amoureuse, mais ça n'a aucun sens, Rakitin. Est-ce que cela peut arriver comme ça, brusquement ? Vous dites que je suis amoureuse ?
Oui, vous êtes amoureuse. Pauvre femme, ouvrez les yeux.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Je suis prêt à vous le dire, Natalia Petrovna, si vous me promettez...
Vous savez que cette fille, Vera, l'aime. Ils sont amoureux l'un de l'autre.
J'y vois une raison de plus.
Elle vient de me l'avouer, elle-même à l'instant. Il est temps que je revienne à moi. Rakitin, je crois que vous vouliez me dire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire ?
Je suis prêt à vous conseiller, Natalia Petrovna, mais promettez-moi de ne pas me soupçonner d'arrière-pensée. Votre confiance me donnera des forces, sinon permettez-moi de ne rien dire.
Dites.
Alors ?
Dites.
Votre confiance.
Dites.
Eh bien, il doit partir. Oui, il doit partir. Ses enfants s'aiment ? Vous les imaginez ici, eux deux, et vous, entre deux, ce serait la fin de vous.
Il doit partir ? Mais vous allez rester.
Moi, je dois partir, moi aussi. Pour que vous trouviez la paix, pour votre bonheur, pour le bonheur de Verochka, lui et moi, tous les deux, nous devons partir pour ne pas revenir. D'autres solutions ? Il n'y en a pas.
Mais à quoi bon vivre après, quand tous vous m'abandonnez ?
Il y a votre famille.
Bon.
Écoutez, je pourrais, après son départ, si vous le souhaitez, rester quelques jours de plus.
Ah, je vous vois venir. Vous pensez que l'habitude reprendra le dessus, notre bonne vieille amitié ? Après tout, je me ressaisirai. Je vous reviendrai.
Pourquoi m'insulter ?
J'ai tout compris, mais vous vous trompez.
Comment j'ai parlé en ne pensant qu'à vous seul, à votre bonheur, à votre position sociale ?
Tiens donc ! Et pourquoi ne m'en avez-vous jamais entretenu ?
Natalia Petrovna, je pars aujourd'hui, tout de suite. Et vous ne me reverrez jamais.
Micha, pardonnez-moi. Je ne sais plus ce que je dis. Pardonnez-moi.
Natalia Petrovna.
Aidez-moi ! Sans vous, c'est la fin de moi !
Michel Esco et Rakitin, Anouk Grimbert, Natalia. C'est très étrange ce couple qu'a inventé Tourguenieff. On peut se demander si c'est pas un peu sa propre histoire qu'il raconte. On sait qu'il a été le troisième personnage du couple Viardot, Pauline Viardot, la cantatrice, et son mari. Il était le meilleur ami du mari. Il était complètement fou de Pauline Viardot. Au fond, en écrivant cette pièce, Un mois à la campagne, il a mis dans le personnage de Rakitin probablement les souffrances et un certain plaisir, celui d'entendre les confidences d'une femme qui n'est pas la sienne. Michel Esco, ça doit être assez étrange de jouer ce personnage et de trouver la bonne distance, parce qu'on sent à quel point c'est lui qui porte le corset plus que Natalia. Natalia, elle se laisse aller. Rakitin ne s'autorise rien et pourtant les souffrances, les blessures doivent être là.
Elles sont là, mais au départ, il faut penser qu'il se contente de cette relation. Elle lui va. Je crois que c'est là que j'ai compris. Enfin, j'ai compris, je sais pas, mais c'était quelque chose, un fil qu'il fallait tirer. En tout cas, c'est que ça fait 4 ans qu'il est dans cette situation. Donc, il l'accepte. Ça va. Enfin, je dirais, c'est platonique, c'est compliqué peut-être, mais en tout cas, il n'est pas dans une frustration. À partir du moment où le jeune homme arrive dans la partie, là, c'est déséquilibré et on voit bien qu'il n'est plus dans son élément et qu'il doit partir, en fait, et que ça devient intenable. Et c'est ce qui est intéressant parce que ça provoque quelque chose. C'était le déséquilibre dont nous parlait Alain Françon tout le temps, en fait. Mais je crois que la chose sur laquelle il fallait s'appuyer, c'est que il accepte cette relation. Enfin, il trouve son plaisir à l'intérieur de ça.
Parce qu'il y a un parfait équilibre au début. Ces amours qu'on ne vit pas peuvent être d'une perfection plus grande que l'amour. Parce que justement, on est libéré des affres, on est libéré des possessions, on est juste dans le soin à l'autre, la liberté. Enfin, on a des amis comme ça dans nos vies qui nous rendent à nous-mêmes, qui nous font aimer la vie. C'est par eux que ça passe, l'amour de la vie. Puis voilà, et puis le désir arrive et il casse ça.
C'est une amitié, mais en même temps, elle n'est pas dénuée de cruauté de la part de Natalia. Il y a des moments où elle n'est pas très aimable.
Elle n'est pas suave, non. Mais la cruauté, c'est juste la vie qui est cruelle. C'est que la vie, on n'est pas que ce qu'on veut, quoi. C'est juste qu'on est écartelé par des désirs incompatibles. C'est-à-dire, elle n'a jamais été amoureuse de sa vie. Et la vie était très bien. Tout allait bien. Sauf qu'un jour, ce vide-là, c'est comme un volcan qui se réveille. Et un volcan, c'est creux. Ça fait des dégâts.
Que je ne m'attendais pas à vous trouver ici.
Tiens donc, je suis tombée sur Alexei Nikolaïtch et j'ai eu avec lui une petite explication. C'est le jour des explications aujourd'hui, hein, semble-t-il.
Puis-je savoir quelle décision ?
Quelle décision ? Je ne vous comprends pas.
Dans ce cas, je comprends tout.
Eh bien oui, j'ai eu avec lui une explication et tout est rentré dans l'ordre. Tout ce dont nous avons parlé, vous et moi, c'était de l'enfantillage. Oublions. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne m'en souviens plus. C'est pas grave. Rentrons, voulez-vous ? Et tout ça est passé. Tout ça est fini.
Oui. Tout est fini. Comme vous devez vous en vouloir de votre franchise de tout à l'heure.
Rakitine, vous n'avez pas encore parlé à Arkady.
Non, madame, je n'ai pas eu le temps de m'y préparer. Vous comprenez, il faut que j'invente quelque chose.
Ils sont tous à m'espionner. Ils suivent chacun de mes pas. Oh, Rakitine, je suis confuse.
Ne vous inquiétez pas, Natalia Petrovna, tout est dans l'ordre. Sauf que Monsieur Beliaev est encore un novice. Pourquoi fallait-il qu'il prenne la fuite si visiblement ? Vous et moi, nous avons un véritable chantier devant nous. Ou encore, vous et lui, vous apprendrez à feindre plus correctement. Allons-y.
Anouk Grimbert et Michel Esco dans un extrait de l'acte 4 de ce mois à la campagne d'Ivan Tourgueniev dont nous parlons aujourd'hui. C'est vrai qu'à vous entendre, on se rend compte que avec un mauvais metteur en scène, la parole, le pathos, les sentiments auraient pu envahir tout. Là, ils y sont, c'est assez déchirant d'entendre parfois certains échanges et en même temps, on sent la distance, le jeu. Comment est-ce qu'Alain Françon vous a demandé justement d'interpréter les sentiments ? Anouk.
Il y a eu plusieurs temps dans les répétitions. D'abord, à nous tous, il revient de laisser venir les sentiments, les émotions qui sont encore plus archaïques, de faire marcher l'inconscient très fort et que ça chahute dans tous les sens. Et puis après, à partir de cette matière-là, où le corps a sa part, il sculpte là-dedans. Et disons qu'une fois que les émotions sont là, il nous demande de les freiner. C'est-à-dire, c'est un peu comme un marin, il fait souffler le vent et ensuite il y a la voile qui retient et c'est comme ça que le bateau avance. Aussi parce que tout ça se passe dans un milieu aristocratique et dans l'aristocratie, on est opaque. Après, cette opacité, elle se déchire, mais elle se déchire, elle se reprend. Et puis, François, il accueille ce que les acteurs proposent, les émotions qui les traversent, et après, il leur demande d'être responsables d'elles, de pas se laisser envahir par elles, et d'être ludique. Même quand on pleure, ça va. Une émotion, on la fait venir, et hop, on la jette, et hop, c'est une autre. Ce qui fait qu'en fait, c'est une danse, quoi. On n'est pas comme parfois avec des metteurs en scène qui vous... Je ne sais pas le dire plus joliment, qui vous demande de se vautrer dans des émotions et qui vous demande aussi d'y adhérer pleinement, comme si jouer, c'était seulement être. Ben non, jouer, c'est jouer.
Mais d'ailleurs, Anouk Grimbert, dans ce personnage de Natalia, il y a un côté théâtral qui d'ailleurs fait courir un rire de bonheur dans la salle quand on vous voit, un peu comme la marquise d'O, hein, vous vous renversez comme ça, vous jouez théâtralement l'émotion, la colère, avec une main sur le visage, le corps renversé, et ça passe très très bien. C'est vous qui avez trouvé ce moment de jeu?
Oui, mais vraiment, j'avais pas du tout pensé à la marquise d'O, mais par contre, je me souviens que, à la toute première lecture de cette pièce, il y a une vingtaine d'années, je me souviens d'une image qui m'était venue, qui était venue frapper ma tête comme ça, d'une femme pliée en deux, par ce que ça peut faire que désirer quelqu'un et d'être
empêché.
Et d'être empêché. Et cette image-là, souvent, quand on joue, si on arrive à rester fidèle à la première image, qui est souvent une image bizarre, tout ça, si on arrive à être fidèle à ça, on trouve le fil. Mais moi, j'avais presque honte de jouer ça en répétition. Je me disais, en plus, Alain, c'est quelqu'un de très intelligent, il est très mesuré, il a de la distance. Et puis, un jour, ça m'a échappé, et il m'a pas dit, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit, fais-le plus lentement. Cite le geste au lieu de l'incarner. Et puis il m'a parlé, j'ai pas compris. De toute façon, il y a plein de trucs qu'il dit, je comprends pas, mais il m'a parlé des femmes de Charcot.
Oui, les scènes d'hystérie.
Des scènes d'hystérie. Et peut-être que quand on est perclus d'amour, le corps fait des trucs que la tête ne veut pas, quoi. Et puis après, c'est vrai que moi, je sais que ça m'est arrivé d'être pathétiquement touchée par l'amour. Et c'est une revanche que je prends. Voilà.
Michel Esco, bien sûr. On vous a vu dans Ivanov il n'y a pas longtemps. C'est vraiment... Alors, j'allais dire c'est deux mondes différents. Non, c'est pas deux mondes différents. C'est 10 ans avant pour Tourguéniev. Mmh. Donc, il y a des choses que Tchekhov se permet, que lui ne peut pas encore se permettre. Et en même temps, il y a aussi une porosité entre les mondes. Hein. Et ils peignent tous les deux des mondes qui s'effondrent. Une génération de jeunes hommes. Bon, il y a beaucoup de médecins chez les deux, hein, chez Tourguéniev et comme chez Tchekhov, qui sont les hommes qui sont revenus un peu de tout, qui ont vu tant de misère, mais qui en même temps ont été éduqués souvent à l'européenne.
Oui.
Et d'ailleurs, Tourguéniev fait partie de cette génération, une génération perdue, qui n'a pas sa place, qui veut des réformes et qui fait partie d'un monde privilégié, qui n'arrive pas à supprimer les privilèges. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour vous de jouer Rakitine après avoir joué Ivanov.
Oui, c'est très intéressant, il y a le concept de l'homme de trop, en fait, ce que dit Ivanov souvent, c'est qu'il ne veut pas devenir un homme de trop. Et en fait, ça fait vraiment référence tout à fait à ce texte de Tourguenev qui s'appelle le journal d'un homme de trop, et sur un type qui rate sa vie, mais totalement. Mais c'est magnifique la manière dont il la rate en même temps. C'est que c'est au niveau
parce
de l'amour.
Il la rate pas parce que c'est un raté, il rate parce que c'est un homme merveilleux.
Oui, oui. mais qu'il a la relation d'amour la plus cruelle et la plus douloureuse. Pas la plus cruelle. Il vit la chose la plus douloureusement. Et évidemment, ça fait écho à tellement de choses. Et c'était drôle de passer d'abord par Ivanov, parce qu'Ivanov, il est presque revenu de tout ça parce qu'il va mourir. Enfin, il est. Ça y est, il a décidé, quoi. Donc, c'est une longue descente. Et là, c'est pas du tout la même problématique à jouer, mais d'avoir traversé ça avant, c'est très enrichissant. Et moi, ça me rassurait d'une certaine manière. J'ai toujours peur de jouer les rôles, de toute façon. Donc là, tout à coup, je me disais, bon, bah là, ça va, j'ai déjà fait Ivanov. C'est censé être plus dur dans le, sur le papier.
Mais en plus, Rakitine, on se pose des questions tout au long du spectacle. Est-ce que c'est une belle âme? Il s'en va, il ne trahit pas son ami, il essaye de prendre même la faute de son ami Natalia sur le dos, il la protège. Et en même temps, on sent bien qu'à des moments, il a aussi envie un peu d'en profiter. Après tout, s'il arrivait à extraire l'intrus, il retrouverait sa place.
Il le fait, mais il pense que c'est pas une bonne idée qu'elle reste avec lui. Donc, il fait quelque chose de peut-être cruel, mais en même temps... On riait avec ça, avec Anouk. À chaque fois, je disais, mais je fais ça pour ton bien, je te protège. Certainement, il il fait partir le jeune homme en même temps. Il le fait partir. Mais il sait que c'est pas possible. Mais il s'en va aussi.
Alors, la figure de ce jeune homme, représente à l'évidence aussi, comme chez Tchekhov, cette nouvelle classe issue de la paysannerie qui a eu un peu d'éducation et qui cherche à voler de ses propres ailes, à aller à la ville, à monter dans la hiérarchie sociale. On va écouter un petit face-à-face entre Natalia et le bel Alexei.
Je n'exagère pas en vous disant que je vous regardais comme un être d'une sphère supérieure et pourtant vous me dites que vous m'aimez, vous, Natalia Petrovna, vous m'aimez, moi? Mon cœur cogne dans ma poitrine comme il n'a jamais cogné. Je ne peux pas partir ainsi.
Qu'ai-je fait ?
Pour l'amour du ciel, croyez-moi.
Alexei Nikolaïtch, si je ne vous tenais pas pour un homme d'honneur, incapable de mentir, Dieu sait ce que je penserais. Mais je vous crois. Je ne veux pas vous cacher mes sentiments. Je vous suis reconnaissante de ce que vous venez de me dire. Je sais maintenant pourquoi nous n'avons pas pu nous connaître. Donc ce n'était pas parce que quelque chose en moi vous déplaisait, il n'y avait que mon rang social. Il me sera maintenant plus facile de me séparer de vous. Adieu.
Natalia Petrovna, vous dire tout ce qui se passe en moi, comment faire? Vous m'aimez, ces mots, à eux seuls, me brûlent, tout cela est pour moi si nouveau. Il me semble que je vous vois, que je vous entends pour la première fois, mais je sens une chose, il faut que je parte absolument. Je sens que je ne suis pas en pleine possession de moi.
Oui, Believ, il faut que vous partiez. Après cette explication, vous pouvez partir. Croyez-moi, si j'avais pu soupçonner, même vaguement, ce que vous venez de me dire, cet aveu, je l'aurais ravalé. Je voulais seulement me racheter et rompre le dernier fil.
Je vous crois. Moi-même, pouvais-je me figurer, voici un quart d'heure. C'est seulement pendant notre dernier entretien que j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Une main invisible m'étreignait le cœur. C'est vrai que jusqu'alors je vous évitais, et peut-être même ne vous aimais-je pas. Mais quand vous m'avez dit que Vera Alexandrovna avait pu croire...
Arrêtez, Believ. Il ne faut pas penser à cela. Il ne faut pas oublier que nous nous parlons pour la dernière fois. Que vous partez demain.
Oui, maintenant je peux partir. J'emporterai un souvenir, un seul. Je me rappellerai éternellement que vous m'avez aimé.
C'est Nicolas Avinet qui joue Believ, qui est un personnage assez surprenant dans ce milieu ultra raffiné. Lui, il comprend pas grand-chose, il est un peu lourdeau. Et puis en fait, on a vraiment le sentiment que lorsque Natalia lui déclare sa flamme, en fait, il est épaté, plus qu'amoureux.
Oui, il a l'air d'être épaté qu'une femme comme elle puisse l'aimer. Et puis moi, je pense que la première fois qu'on est aimé, on ne peut pas résister. En fait, je ne pense pas qu'il l'aime. C'est un tout petit feu de forêt qui s'allume en lui. Et il lui fait croire à elle qu'il l'aime. C'est terrible, c'est un moment assez terrible dans la pièce parce qu'elle est vraiment consumée d'amour. Elle croit à ce moment-là que oui, il va l'aimer, qu'ils vont vivre quelque chose. Et puis, la scène d'après, il se moque d'elle un peu comme ces hommes qui couchent avec une jeune fille amoureuse et qui la quittent une heure après, quoi. Elle tombe de haut. Mais je crois pas qu'il s'amuse à répondre à ça. C'est juste qu'il peut pas ne pas répondre. Je crois pas qu'il est lourdeau. Il est juste à côté de gens qui savent parler, il sait pas parler. Et même le fait qu'il ne sache pas parler fait partie de ce qui fait qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est comme si, dis donc, là, il y a un homme vrai. C'est comme si pour eux de la haute société, qui sont des gens cultivés, raffinés, vivre c'est parler. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un, vivre c'est vivre. Et c'est attirant.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que Tourgueniev a précisé en face des noms de ses personnages leur âge. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont des très jeunes gens. Le plus vieux a 30 ans, enfin pas le voisin, mais dans cette famille, le mari a 30 ans, la femme a 29 ans, Rakitine a 30 ans. Et en fait, la vie est déjà passée, c'est ce qu'on sent, Michel Esco. Hein, on a l'impression que vous pourriez avoir 50 ans aussi, parce qu'il y a une sorte de fatigue. Et ça, c'est l'art de Tourgueniev aussi, de montrer probablement la fatigue de cette classe aristocratique qui arrive en bout de vie.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce jeune homme fait rentrer un souffle à l'intérieur de ça, et c'est la lutte est perdue. Enfin, je veux dire, on peut pas lutter contre ça. Enfin, on s'en rend bien compte.
C'est une façon d'écrire l'histoire assez étonnante.
C'est
l'irruption
vrai,
c'est vrai.
C'est un peu
comme dans La Cerisaire.
Totalement. La fin fait penser à La Cerisaire d'ailleurs.
Mais la fatigue vient aussi, paradoxalement, du fait de ne pas travailler. En fait, c'est fatigant de ne pas travailler. Et Alexei, qui lui est au travail, est moins fatigué. Et là, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la littérature russe, ce rapport à l'oisiveté que des gens appellent ennui. Mais enfin, c'est les Russes qui parlent beaucoup de l'ennui. Mais quand on se promène dans notre pays et qu'on voit des gens sur leur portable crever des bulles de couleur, ça s'appelle quoi ça ? Si c'est pas un grave, grave ennui. Les Russes, à mon avis, s'ennuient moins parce qu'au moins ils le disent. Ils l'explicitent et pendant qu'ils le disent, en fait, ils vivent. En fait, ils vivent vraiment, quoi.
À moi, à la campagne, c'est au théâtre des Jazets. C'est vraiment, si vous arrivez à trouver des places, allez-y, parce que c'est absolument formidable. La mise en scène, on l'a dit, c'était d'Alain Françon. On va donner les noms quand même des autres acteurs. Nicolas Avinet, Jean-Claude Boléréda, Laurent Scott, Catherine Ferrand, Philippe Frétin, India Air, Guillaume Lévesque, et puis les enfants en alternance. Voilà, alors, j'ai encore des choses à vous demander, parce que ça va s'arrêter, mais vous allez continuer. Alors, Anouk Grimbert, je sais qu'on va vous retrouver sous votre autre facette, celle de la peintre. Et vous nous avez préparé des choses avec des animaux. Ça sera à Dunkerque, à partir du 5 mai. C'est la galerie La Plateforme.
Oui, qui est une très, très, très belle galerie. Le thème de cette exposition, et moi, il me touche beaucoup, c'est des animaux un peu hommes ou des hommes un peu animaux. Et moi, sans du tout le faire exprès, quand je dessine, même si je veux dessiner un homme, des fois, il ressemble à une bête. Et quand je veux dessiner une bête, je vois qu'il y a un homme. Je crois qu'au fond de moi, je confonds.
Voilà, ça sera à la galerie La Plateforme à Dunkerque, donc entre le 5 mai et le 16 juin. Michel Esco, vous allez reprendre avec Jérôme Deschamps le Bouvard et Pécuchet, que vous avez déjà joué à l'Espace Cardin. Et puis, quoi d'autre après ?
Après, je vais jouer une pièce de Pinter l'année prochaine, montée par Ludovic Lagarde avec Laurent Poitrenaud, entre autres.
Ah, voilà. Ça, alors Michel Esco et Laurent Poitrenaud, alors nous, on sera au 7e ciel. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus. Merci pour ce spectacle que vous nous donnez au Déjazet. C'était un bonheur de vous avoir. Au revoir.
Au revoir, merci.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de cette semaine, mais comme vous le savez, on se retrouvera samedi prochain aux environs de 19h20. Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.